este informativo da Rádio
Francesa.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction brésilienne, Marcia Bechara, pour la manière dont le Brésil lutte contre les fake news sur Internet. Xenia Gulia, la rédaction russe.
Dobry vecher.
À propos de lourdes peines de prison infligées à 7 antifascistes en Russie. Et puis, Matej Wichniec, de la rédaction roumaine.
Buonasera.
Car la Commission européenne exhorte la Roumanie à stopper l'exploitation forestière illégale. Bonsoir à vous. Avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine. Non sans surprise, la pandémie de Covid-19. Covid-19, c'est le désormais nom officiel du coronavirus qui a fait au moins 1400 victimes en Chine. Matej Wichniec, dans vos émissions en langue roumaine, vous avez donné les dernières informations concernant ce virus que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré ennemi public numéro 1.
Ce sont des spécialistes chinois qui avertissent tout le monde que la bataille contre ce virus risque d'être plus rude que prévu. Par exemple, jusqu'à récemment, la période d'incubation du virus était estimée à 14 jours, mais il s'est avéré que cette période peut être en effet beaucoup plus longue, jusqu'à 24 jours. Un deuxième fait inquiétant, une sorte d'anomalie par rapport à ce qu'on connaissait sur la galaxie virale, Covid-19 infiltre certains organismes sans provoquer les symptômes typiques, le plus important étant la fièvre. La bataille n'est donc pas totalement gagnée, même si les experts estiment que le moment maximum du vrai virulence de l'épidémie se manifeste en ce moment même, donc à mi-février. On nous assure qu'après ce moment, l'épidémie diminuera en intensité. Et encore une bonne nouvelle venant des spécialistes chinois, le taux de mortalité n'est pas aussi élevé qu'on le croyait, 2%, mais de 0,88%.
En Russie, Xenia Gulia, il n'y a officiellement du moins plus de malades de ce virus.
Il y a quand même 20 000 personnes sous surveillance médicale ou en quarantaine, mais officiellement, il n'y a pas de cas confirmés. La semaine dernière, à Chita, c'est dans l'est de la Russie, un ressortissant chinois est sorti de l'hôpital en pleine santé et c'était le deuxième et dernier cas confirmé auparavant dans le pays. Et maintenant, les autorités rassurent la population. Ils disent que toutes les mesures sont prises pour se protéger ou faire face à une éventuelle épidémie.
Alors justement, concrètement, au-delà des discours, quelles ont été les mesures mises en place par les pouvoirs publics en Russie ?
Désormais, le nouveau coronavirus est inscrit dans une liste de maladies particulièrement dangereuse, où figurent par exemple la peste et le choléra, et cela devrait permettre par exemple d'expulser les étrangers contaminés. La Russie a fermé aussi son énorme frontière terrestre avec la Chine et les vols entre les deux pays sont extrêmement limités. Autre mesure de précaution, le Kremlin a décidé de contrôler la température de tous ceux qui participent aux événements en présence de Vladimir Poutine.
Pour certains, ça ne suffit pas à les rassurer. Hein.
Oui, tout à fait. Par exemple, dans la région de Tcheliabinsk, c'est dans l'Oural, on devait installer un centre de quarantaine près d'un village et les habitants de ce village, ils ont bloqué la route pour ne pas laisser passer un véhicule qui amenait des gens qui devaient effectuer leur quarantaine. Et d'ailleurs, ils ont réussi, le centre de quarantaine a été fermé. Un autre exemple, dans l'autre ville de Ufa, un jeune homme n'a pas pu passer ses examens médicaux à l'hôpital parce que les médecins ont pris la fuite quand ils ont appris que c'est quelqu'un qui rentre de la Chine et qui a passé 8 mois à Pékin. Il voulait s'assurer qu'il n'a pas le virus.
Et ce qui peut alimenter aussi ces craintes, c'est toujours les complots, les théories du complot qui sont nombreuses.
Oui, et en Russie, il y a une particularité. Ces théories se propagent non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi sur la télévision officielle. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de la première chaîne de la télévision centrale russe.
Может быть, существует этническое биооружие? Даже те ученые, кто осторожен в оценках, говорят, исключать ничего
нельзя. Alors, qu'est-ce qu'on entend?
Le journaliste, l'auteur de ce reportage, laisse entendre que ce sont les États-Unis qui profitent du coronavirus quand ils sont en guerre commerciale avec la Chine. Et il dit donc qu'on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'une arme biologique contre les Chinois.
Et puis, une image a particulièrement retenu votre attention, Matej Wichniec. Il s'agit de celle du président Xi Jinping, muni d'un casque de protection qui descend de son palais pour rencontrer des spécialistes, pour visiter également un hôpital.
Encore une image qui a fait le tour du monde. Et cette semaine, on la voit sur la couverture de l'Express. Sans doute, le président sait que l'épidémie du coronavirus est l'épreuve la plus difficile à laquelle il est confronté depuis qu'il est devenu un vrai empereur rouge. Mais en 2022, il va demander un troisième mandat. Or, si les choses tournent mal, surtout du point de vue économique, il risque d'être contesté tout d'abord à l'intérieur du parti. Il sait sans doute qu'il y a déjà une contestation forte au sein de la population. Peut-être qu'il se rappelle aussi ce que Mikhail Gorbatchev, initiateur de la politique du glasnost en Union soviétique, avait dit un jour, que l'effondrement de l'édifice soviétique avait commencé à Tchernobyl lorsque l'une des centrales nucléaires a explosé le 26 avril 1986 et lorsque la population soviétique n'a découvert qu'après quelques jours des sources étrangères qu'il faisait face à une catastrophe. Ce n'est peut-être pas comparable, l'explosion de Tchernobyl et l'épidémie du coronavirus en Chine, mais l'effondrement des régimes totalitaires commence toujours par une petite fissure.
Marcia Béchara, les premiers Brésiliens qui vivaient en Chine sont entrés chez eux, mais leur retour n'était pas si évident que cela.
Boa noite, tout à fait. Philippe, le président brésilien, a fait laisser ses concitoyens en Chine. Ça serait mieux qu'il reste là-bas pour ne pas transmettre la maladie ici, dit-il. Une phrase qui a fini par choquer l'opinion publique brésilienne le 31 janvier. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par les Brésiliens siégés à Wuhan, où ils presque supplient l'aide du gouvernement pour rentrer le 4 février à faire l'affaire. Et Bolsonaro a décidé, dans la foulée, de rapatrier tous les Brésiliens en Chine. Mais la situation a encore empiré quelques jours après, quand deux avions militaires brésiliens ont refusé d'aider plusieurs ressortissants sud-américains en Chine, préférant transporter quatre Polonais et ses conjoints avec les Brésiliens qui rentraient finalement.
Ouais, et tout ça est forcément mal vu par un certain nombre de pays.
Bien évidemment, la décision du gouvernement brésilien a été regrettée par au moins deux pays voisins. Diplomate argentin a indiqué que la préférence donnée aux citoyens polonais était considérée comme un échantillon de l'orientation idéologique du gouvernement Bolsonaro. Les gouvernements de droite et d'extrême droite de la Pologne, de la Hongrie, des États-Unis et du Brésil font partie de la soi-disante l'Alliance pour la liberté religieuse, fraîchement lancée. Ces pays s'alignent sur des positions pro-chrétiennes, condamnant les droits à l'avortement et ce qu'il appelle l'idéologie de genre. La diplomatie brésilienne a répliqué les critiques en disant qu'il n'avait pas de place dans l'avion pour transporter les personnes demandées par les pays voisins et aussi que comme les avions demandaient d'atterrir dans la capitale polonaise lors de son premier arrêt hors Chine, les transports des Polonais étaient considérés plus viables. Le Brésil compte actuellement 6 personnes soupçonnées d'avoir les symptômes du coronavirus.
Matej Wiśniak, cette crise sanitaire a également une dimension politique qui suscite des débats. Il y a cette question, est-ce qu'en démocratie, on aurait pu faire mieux devant l'apparition d'un tel virus ?
De toute façon, dans une démocratie, les informations sur l'apparition de nouveaux virus sont rendues publiquement beaucoup plus rapidement. Et par conséquent, normalement, la population avertie est invitée à se protéger immédiatement après les premiers cas d'infection, après les premiers cas mortels. Mais en même temps, il est difficile de croire que dans des pays comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis, par un simple ordre venu d'en haut, on pourrait bloquer des villes entières et mettre en quarantaine des millions de personnes, comme en Chine. Et encore une chose, dans une démocratie, normalement, l'apparition d'un virus n'est jamais instrumentalisée politiquement. Or, en Chine, certaines mesures drastiques ont été très médiatisées. Le régime a voulu montrer à quel point il est fort sur le plan économique, mais aussi en ce qui concerne sa capacité à imposer la discipline et à contrôler la population. L'information selon laquelle, par exemple, les autorités ont construit un hôpital avec 1000 lits en seulement 10 jours a contourné la Terre. Il y a des messages subliminaux derrière certaines mesures et images, comme si le pouvoir disait « Voyez-vous de quoi nous sommes capables ?» ou bien « Pourriez-vous, dans vos démocraties, être plus efficaces ?»
Voilà, des questions posées dans Accent du Monde. Vous écoutez Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères. En Russie, la liste des prisonniers politiques s'allonge avec de lourdes condamnations. Elle concerne 7 jeunes militants d'extrême gauche. Ils devront purger des peines de 6 à 18 ans de prison. Xenia Gulia, de la rédaction russe, qui sont-ils exactement ?
Ce sont des antifascistes, des anarchistes, des véganes, tous originaires de la ville de Penza, au centre de la Russie. Ce sont tous des jeunes gens, ils ont entre 23 et 31 ans. Le tribunal militaire les a reconnus coupables de terrorisme. Ils sont accusés d'avoir préparé des attentats pour créer une sorte d'instabilité en Russie, pour renverser le pouvoir pendant les élections présidentielles et la Coupe du monde de foot en 2018. Les accusés disent que le FSB, le Service fédéral de la sécurité, avait arraché leurs aveux sous la torture. Je vous propose d'écouter Oksana Markeeva, elle est l'avocate de l'un des accusés qui a été condamné à 18 ans de prison.
Quels sont ses arguments?
Elle dit que son client a été torturé avec l'électricité à plusieurs reprises. Il a porté plainte, mais personne n'a donné suite. Et pour elle, aucun projet d'attentat n'a été démontré par l'enquête et toutes les preuves sont fabriquées ou complètement inventées par le FSB.
Alors avec ce verdict très lourd, certains en Russie évoquent le retour de la grande terreur stalinienne.
Ces peines de jusqu'à 18 ans de prison, alors qu'il n'y a pas de preuves, sont effectivement sans précédent dans la nouvelle Russie. Cette affaire est vraiment digne de l'époque stalinienne, mais malheureusement, ce n'est ni surprenant ni nouveau. Pour plusieurs ONG, c'est juste une nouvelle preuve de la stratégie des autorités qui tentent d'instaurer la peur. Écoutez Lev Ponomarev, figure de la défense des droits de l'homme.
Que dit ce militant?
Il dit que la jeunesse russe apprend des nouvelles sur Internet et pas sur la télévision, donc ils sont au courant de cette affaire et ça va encore plus radicaliser la jeunesse contre les autorités, donc c'est contre-productif pour les autorités en fait.
Et comment justement ces autorités réagissent à ce verdict, à cette affaire?
Au Kremlin, ils disent, comme d'habitude, que Vladimir Poutine est au courant, il a même ordonné des vérifications. Mais le président ne peut pas intervenir dans une procédure judiciaire indépendante. Les parents des jeunes gens condamnés ont rédigé une lettre ouverte à Vladimir Poutine. Ils racontent que leurs enfants ont été torturés et que l'affaire est montée de toutes pièces. Un groupe de scientifiques a aussi demandé aux autorités de libérer ces jeunes anarchistes, mais pour l'instant, ça n'a rien changé.
C'est la Gulia de la rédaction russe de RFI. Créée pour enquêter sur la propagation de fausses informations, une commission parlementaire a finalement généré une nouvelle vague de fake news au Brésil cette semaine. On va essayer de comprendre tout cela. En tout cas, il y a les propos d'un ancien fonctionnaire d'une entreprise de marketing digital liée à la campagne électorale de Bolsonaro qui est impliqué, Marcia Bechara, la rédaction brésilienne, qui était donc la cible de ces fake news et comment le Parlement a-t-il réagi?
La cible était Patrícia Campos Mello, une journaliste brésilienne expérimentée avec un long parcours à l'étranger. Patrícia a reçu en 2019 le prix international pour la liberté de la presse du Comité de protection aux journalistes pour sa série de reportages pendant les présidentielles en 2018 au Brésil. Son enquête a mis à jour les stratagèmes des entreprises liées à Bolsonaro pour diffuser massivement des fake news contre ses opposants sur WhatsApp, un schéma estimé à la hauteur de 12 millions de dollars. Patrícia est devenue désormais une des ennemies d'État de Jair Bolsonaro. Elle était profondément attaquée par les fils du président brésilien et par lui-même dans les réseaux sociaux ciblés par des milliers de menaces de mort anonymes.
Et puis tout cela a pris un tour officiel puisqu'il y a eu une audition au Sénat.
Oui, mais oui, étant entendu par la commission parlementaire du Sénat cette semaine, Hans River de Nascimento, un ancien employé d'une société de marketing numérique qui faisait des envois massifs sur WhatsApp, attaquait la journaliste, suggérant qu'elle avait menti dans ses reportages, l'accusant de vouloir échanger des informations par des faveurs sexuelles. Après la diffusion de vidéos de son témoignage, Patrícia Campos Mello était encore une fois devenue cible prioritaire des ordres des adeptes de Bolsonaro sur la mais aussi d'Eduardo, député et fils du président brésilien. Les menaces de mort retombent sur la journaliste qui était même censée de se défendre en publiant une vidéo sur Internet cette semaine. On l'écoute sur cette vidéo.
Que dit Patrícia Campos Mello?
Elle a dit qu'elle pense que la meilleure façon de contester un mensonge, c'est de montrer les faits. Elle a dit qu'elle va montrer les originaux des messages qui rendent les témoins qui a menti à la commission parlementaire à échanger avec elle. Elle demande aux Brésiliens de bien vouloir partager les messages, car c'est un autre mensonge qu'ils diffusent.
Quelle a été la réaction du Sénat, Marcia?
Eh bien, le sénateur Lidici Damat, chargé de la commission commission parlementaire d'enquête sur les fake news au Brésil a déclaré qu'elle va examiner la possibilité de déposer une demande de représentation au parquet contre ces citoyens-là, Hans River do Nascimento. Le président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia, lui aussi a réclamé une sanction à l'ancien employé de la société de marketing numérique. Néanmoins, la journaliste continue à être insultée par les milliers de messages sur Twitter accusés de vouloir s'y prostituer en échange des informations privilégiées. Oui, c'est là les mots. Et d'être directement liée au parti des travailleurs. Des fake news aussi misogynes que sexistes, désormais, les leitmotifs de l'ère Bolsonaro au Brésil.
En France, les fake news s'appellent des infox. Est-ce qu'il y a un nom au Brésil pour parler de fake news ou est-ce que ça
non,
reste en anglais?
On dit fake news, ouais. Toujours.
Marcia Bechara de la rédaction brésilienne de RFI. Ce mercredi, l'Union européenne a ouvert une procédure d'infraction et menace de sanctions financières la Roumanie. Ce pays est accusé depuis des années de fermer les yeux sur le fléau du déboisement illégal de ses forêts. Vous avez déjà abordé ce sujet sur votre antenne, Matthieu Vichniec, de la rédaction roumaine. Mais cette fois, ce sujet sort du cadre strictement national. Hein.
Oui, c'est vrai. La Roumanie, c'est un drame, un vrai drame. Et heureusement que les signaux d'alarme des ONG ont été entendus à Bruxelles. Écoutons ce qu'un militant du Greenpeace en Roumanie reproche à l'exécutif du Bucarest.
Quels sont ses arguments?
Il dit la législation roumaine est inconséquente et à cause de cela, nous ne pouvons pas vérifier vraiment quelles sont les grandes quantités de bois récoltées d'une manière légale. La Commission européenne dénonce aussi le fait que le pouvoir politique est incapable de vérifier vraiment les entreprises qui opèrent en Roumanie sur le marché du bois. Plus précisément, Bruxelles demande que Bucarest applique le règlement de l'Union européenne sur le bois, c'est-à-dire d'empêcher les sociétés d'exploitation de produire et de mettre sur le marché de l'Union européenne des produits issus d'une récolte illégale. Je précise qu'en Roumanie, les forêts couvrent un tiers du territoire, 7 millions d'hectares, que la filière bois représente 3,5 de PIB et que de nombreuses entreprises étrangères s'approvisionnent dans ce pays.
Bon, on entend les accusations. Que dit le gouvernement pour sa défense?
Le gouvernement libéral au pouvoir depuis le mois de novembre l'année passée reproche au précédent cabinet d'avoir ignoré pendant 3 ans les avertissements de Bruxelles. Normalement, le pouvoir devrait s'appliquer à résoudre ce problème. Bucarest dispose de mois pour commencer à remédier aux lacunes signalées. À défaut, la Commission pourrait au terme procéder au déclenchement des sanctions financières. Mais le chantier est gigantesque car nous avons d'un côté la corruption qui facilite les coupes illégales et de l'autre côté, une législation faible qui ne protège pas les forêts et permet en toute légalité des vrais massacres de forêts. Plusieurs ONG, dont la Fondation allemande Euronature, salue l'intervention de l'Union européenne car il s'agit, je cite, de la dernière chance de sauvegarder une partie importante des dernières grandes forêts d'Europe.
Voilà donc pour les forêts. Autre chose, Matthieu, sur l'antenne roumaine de Radio France Internationale, vous avez abordé un autre thème plus large, il concerne les déséquilibres et les inégalités en Europe, c'est ça?
Oui, il y a une passerelle entre les deux sujets. Oui, il y a ce débat dans les pays de l'Europe de l'Est parfois se pose de la manière suivante. Est-ce que nous recevons de l'Union européenne à l'Est autant que nous lui donnons? Ce que les peuples des pays de l'Europe de l'Est reprochent à Bruxelles, c'est l'absence d'une vraie politique d'investissement. 1 million de Polonais sont partis travailler en Grande-Bretagne, entre 3 et 4 millions de Roumains sont partis travailler en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne aussi. 700 000 Croates sur une population qui était en 1990 de 4 700 000 sont partis travailler ailleurs, malgré le fait que la Croatie est devenue un paradis touristique, surtout la côte dalmate. Il y a un problème du développement équilibré en Europe. Certains pays de l'Europe de l'Est se vident de leur matière grise et de leur jeunesse. La natalité s'effondre et il ne faut pas s'étonner non plus que des angoisses identitaires surgissent et le populisme qui va avec. Si l'Europe post-Brexit veut trouver un nouveau souffle, il faut penser à ces inégalités économiques entre l'Est et l'Ouest. D'ailleurs, le problème est mondial. Ce n'est pas pour rien que le film sud-coréen Le Parasite a raflé le plus important Oscar. Le film met en scène une famille pauvre face à une famille riche. Et à la fin, c'est vraiment le désastre.
Matthieu Vichniec de la rédaction roumaine de RFI. C'était Accent du Monde. Merci pour votre attention.